Chapitre 11. L'instruction devait être longue et laborieuse. Tout d'abord, M. Bonin, l'excellent magistrat auquel elle avait été confiée, avait tenu à étudier avec le plus grand soin le dossier formidable de cette affaire, et cela avant de pousser à fond l'interrogatoire de l'accusé. Ce ne fut que lorsqu'il se jugea suffisamment documenté qu'il fit venir Landru dans son cabinet. Le bruit s'en était vite répandu, et il n'en fallut pas davantage pour que le palais s'emplit d'une agitation fébrile causée par la curiosité que suscitait encore notre barbe bleue moderne. Aussi, de nombreux avocats, reporters, curieux et curieuses, guettaient-ils par les fenêtres l'entrée des paniers à salade déversant dans la cour intérieure des prévenus enchaînés à ce que les gardes conduisaient chez le juge. Il fallait surprendre Landru et ses gestes quand il apparaîtrait. Les reporters surveillaient la souricière, espérant le voir surgir. Il débusqua brusquement d'un couloir. Sa petite taille surprit, ses yeux vifs de renard creusés contre le nez pointu, aspectèrent tranquillement la foule. Il passa en revue la haie formée devant lui, eut un sourire. L'explosion des capsules de magnésium, le déclic des appareils photographiques ne le firent pas siller. La tête haute, cambrée, insolent et railleur, il rentre chez le juge. La porte se ferme sur lui et sur son avocat, maître Moreau de Giafferi, assisté de maître Navière Dutreuil, dont la toge laissait voir l'uniforme de lieutenant. M. Bonin, poursuivant un plan méthodique et raisonné, commença par poser quelques questions à Landru sur la disparition de sa dernière fiancée, c'est-à-dire Mademoiselle Marchadier, dite la belle Mitaise. « Vous emmenez le 13 janvier, Madame Marchadier, disait M. Bonin, et opérez immédiatement sa trace. Qu'est-elle devenue ?»« Je n'ai rien à répondre, faisait Landru impassible. « Vous avez bien pris ce jour-là 2 billets pour Gambet. Je n'ai rien à vous dire. Un billet d'aller-retour et un billet simple. » Pas de réponse. Vous avez procédé au déménagement des meubles 330 rue Saint-Jacques les 14 et 15 janvier. Pourquoi ? Cela me regarde. Vous ne voulez pas répondre. Je n'ai rien à répondre. Telle était la phrase qui revenait sur les lèvres du misérable chaque fois que le juge d'instruction lui posait une question. À la fin, le magistrat, énervé par l'air narquois de l'inculpé, son obstination à se refuser de lui donner le moindre éclaircissement, s'écriait « Mais vous êtes un assassin !» Landru ripostait, sans la moindre indignation. Oh, « Vous le dites, prouvez-le. Cherchez, fouillez, imaginez. Mais prouvez, si vous pouvez. » M. Bonin n'était pas homme à se laisser déculotter ni découragé par l'attitude de son client. Avec une patience, une opiniâtreté inlassable, il continuait sa tâche. Le deuxième interrogatoire eut lieu le 7 juin. Toujours maître de son air et de son visage, le retors accusé ne répondait une fois de plus rien au juge. Celui-ci évoquait Madame Guillain disparue. Landru se taisait. Plus le magistrat insistait, plus son adversaire fermait le bec. « Vous l'avez bien connu ?»« Oh, je suis un galant homme. La vie privée d'une femme n'appartient qu'à elle. »« Vous avez vécu ensemble. »« Ne rien à répondre. » Les cheveux gris du juge s'approchaient du crâne chauve de l'accusé. Les yeux bleus fixaient les yeux bruns. « Vous ne voulez rien dire ?»« Rien. Emmenez l'accusé. » Les interrogatoires se suivent et se ressemblent. On dirait que l'accusé s'amuse à voir rager son juge. On discute au boudoir, au salon, à l'atelier, au café et ailleurs sur sa physionomie. On cherche à pénétrer cet homme impénétrable. Sadisme, intérêt. Les spécialistes des annales criminelles fouillent dans les grimoires. Ils avouent n'avoir jamais connu le cas d'un assassin sadique liquidant l'avoir de ses victimes avec tant de méthode et de soin que le sieur de Gambet. Il n'a rien laissé perdre. On étudie ses comptes. Il a bazardé les valeurs, lavé les titres et les bijoux, vendu les meubles. Ce n'est donc pas un barbe bleue. Landru est un monstre unique. Il continue toujours à poser la passivité du silence, l'inertie des délégations, aux accusations formidables dont tout autre que lui serait accablé. Il ne dira rien. C'est en vain qu'on le confronte d'abord avec M. et Mme F., sœur et beau-frère de la veuve Cuchet, qu'on le mette en présence d'une dame B., qui connut elle aussi la première disparue. « Je ne vous vis jamais, » objecte Landru. « Oh, j'ignore ce que vous voulez dire. » Quelquefois, une brusque fureur secoue son calme. Il s'agite, ses veines se gonflent, son visage se contracte, ses yeux fulgurent. Il va parler, mais tandis que déjà le greffier trempe sa plume dans l'encre et que le juge tressaille, il s'apaise. Bon, je n'ai rien à vous dire. Et si le juge insiste, il se décide à répliquer. Mais je ne puis faire connaître la nature de mes relations avec Madame Guillain sans l'autorisation de cette dame. Le juge, soudain, lui présente des dents humaines. Et qu'est-ce que vous en dites, Landru? Flegmatique, Landru se penche, regarde et fait. Bon, tout ce que je puis dire, monsieur le juge, c'est qu'elles sont dans un mauvais état de conservation. Monsieur Bonin lui fait remarquer le sens d'une inscription portée sur le carnet fatal. Je lis 27 décembre 1907. Cela veut dire 4h07. C'est la minute précise de votre victime mourait. Oh, vous en avez de joyeuse! Fait Landru en haussant les épaules. Et laissant de nouveau monologuer son accusateur, il se renferme dans le plus profond silence. Un intermède se produisit entre l'instruction et les débats de la cour d'assises. Landru, en effet, comparait la quatrième chambre correctionnelle, près de laquelle il avait eu le toupet de faire appel d'une condamnation à un jugement du 20 juillet 1914 qui le condamnait à 4 ans de prison et à la relégation. La présence de Landru à la quatrième chambre avait attiré à l'audience nos plus jolies avocates. On s'étonnait fort du succès féminin collectionné par l'inculpé. L'accusé n'avait rien d'un séducteur, au moins en apparence. La barbe grisonnante, légèrement tondue, sceptique et dédaigneux, il fixe ses yeux malins sur le tribunal et s'amuse comme une petite folle de la rapidité avec laquelle les condamnations sont prononcées. Oh, quelle justice ! L'entend-on dire à Maître Moreau de Giafferi. On n'écoute même pas les défenseurs. Il semble très à l'aise dans les bancs des prévenus. On sent un habitué. Le président Le Mercier rappelle les faits. Vous aviez monté un garage à Malakoff et vous engagiez les ouvriers à un salaire élevé, mais en leur réclamant un cautionnement que vous oubliez de rendre après un renvoi qui ne tardait jamais. Cette entreprise, en somme, n'était qu'une façade pour vous permettre de commettre vos escroqueries. Landru, pointé du nez, souriait, lissait sa barbe et parlait. « Il est singulier, disait-il, de voir combien la vérité est aisément déformée. Mon atelier de Malakoff devient une façade et mon garage une chimère. Or l'un et l'autre n'ont fait que croître et embellir, même quand je m'en suis plus occupé. Mais il y a les témoignages, fait monsieur le juge, qui lut les dépositions. » Landru branla la tête et s'exclama. « Ah oui, le tourneur ! Il se plaint, le tourneur ! Mais sachez donc que lorsque cet ouvrier sortait une pièce de son tour, elle était droite comme le dos d'un chameau. Oh, quant au dessinateur, il pensait qu'à la rondité de son ventre. Le contremaître arrivait avec une boîte de maçon. J'ai dû mettre à la porte le serrurier que je croyais marié alors qu'il avait une maîtresse. » Les rires fusent, Landru rigole, les magistrats se mordent les lèvres. Le sieur de Gambet est bien l'humoriste annoncé. C'est le pantin dont la foule attend les boutades et qu'il élance imperturbable d'une voix sûre. « Il s'est passé, dit-il, depuis des choses autrement graves et sur lesquelles la lumière se fera un jour. » C'est l'allusion escomptée. La parole va peut-être jaillir. Mais la correctionnelle n'est pas la cour d'assises. Il le sait. Il se tait, c'est fini. Ce n'est plus le barbe bleue, mais le tueur de femmes, assassin d'on ne sait combien de victimes. Ce n'est plus le mystérieux automobiliste du temps de guerre, amoureux locataire des villas de Vernouillet et de Gambet. C'est le chicanier retors et rusé qui connaît son droit d'inculpé et qui doit se défendre. « On m'accuse d'escroquerie, fit-il. Je n'ai emporté de Malakoff que mon paletot. Mes collaborateurs avaient l'actif pour se payer. Pourquoi n'ont-ils pas fait une saisie gagerie ?» Et quand le tribunal renvoie le jugement à huitaine, il a un petit geste condescendant. « Bon, on se reverra, ça me promène. » Bien que Landry s'obstinât toujours à nier sa culpabilité en raison des charges accablantes qui pesaient sur lui, et après un examen des docteurs Vallon, Rubinovitch et Roch de Fussac, qui constataient qu'il n'était atteint d'aucune maladie mentale et qu'il devait être considéré comme responsable pleinement de ses actes, le juge d'instruction adressait son rapport à la chambre des mises en accusation qui renvoyait Landru devant la cour d'assises de Seine-et-Oise sous l'inculpation, premièrement, d'avoir à Vernouillet commis un homicide volontaire sur la personne de Jamast, veuve Cuchet, avec préméditation et manœuvre frauduleuse. Deuxièmement, d'avoir, dans les premiers mois de l'année 1915, soustrait frauduleusement une certaine somme d'argent et des objets mobiliers au préjudice des héritiers de Madame Jamast, veuve Cuchet. Troisièmement, d'avoir à Vernouillet, dans les trois premiers mois de l'année 1915, commis un homicide volontaire sur la personne de Cruchet André avec préméditation et manœuvre frauduleuse. Quatrièmement, d'avoir dans les trois premiers mois de l'année 1915 soustrait frauduleusement une certaine somme d'argent et d'objets mobiliers au préjudice des héritiers Cruchet André. Cinquièmement, d'avoir à Vernouillet en juin et en juillet 1915 commis un homicide volontaire sur la personne de Turane Thérèse, veuve Labordeline, etc., etc. Sixièmement, d'avoir soustrait frauduleusement une certaine somme d'argent et d'objets mobiliers au préjudice des héritiers Turane Thérèse, veuve Labordeline. Septièmement, d'avoir à Vernouillet, en août 1915, commis un homicide volontaire sur la personne de Pelletier, Marie-Angélique, veuve Guillain, etc. Huitièmement, d'avoir en août 1915 soustrait frauduleusement une certaine somme d'argent et des objets mobiliers au préjudice des héritiers Pelletier, veuve Guillain. Neuvièmement, d'avoir à Gambet, en décembre 1915, commis un homicide volontaire sur la personne d'Henri Bertrand, veuve Éon. Dixièmement, d'avoir en décembre 1915 soustrait frauduleusement une certaine somme d'argent et des objets mobiliers au préjudice des héritiers de Henri Bertrand, veuve Éon. Onzièmement, d'avoir à Cambay, le 27 décembre 1916, commis un homicide volontaire sur la personne de Moreau Anna, veuve Colomb. Douzièmement, d'avoir le 27 décembre 1916 soustrait frauduleusement une certaine somme d'argent et d'objets mobiliers au préjudice des héritiers de Moreau Anna, veuve Colomb. Treizièmement, d'avoir à Gambet, le 12 avril 1917, commis un homicide volontaire sur la personne d'André Babelais. Quatorzièmement, d'avoir le 12 avril 1917 soustrait frauduleusement les objets mobiliers au préjudice des héritiers de Barbelais André. Quinzièmement, d'avoir à Gambet, le 1er septembre 1917, commis un homicide volontaire sur la personne de Glavier Célestine, veuve Buisson. Seizièmement, d'avoir le 1er septembre 1917 soustrait frauduleusement une certaine somme d'argent et des objets mobiliers au préjudice des héritiers de Glavier Célestine, veuve Buisson. Dix-septièmement, d'avoir à Paris, le 10 septembre 1917, en présentant devant M. P., agent de change près la Bourse de Paris, sous le faux nom de Lavie, femme Buisson, une femme qui se nommait en réalité Rémy, femme Blandru, fait dresser par le dit agent de change un acte de transfert de 103 francs de rente française à l'ordonnance administrative immatriculée au nom de Lavie Célestine, veuve Buisson, et d'avoir fait frauduleusement apposer au pied de cet acte par la femme Landru la fausse signature « J'ai la vie ». Dix-huitièmement, d'avoir à Paris, le 19 septembre 1917, fait usage de l'écrit ci-dessus spécifié, ainsi falsifié, connaissant sa fausseté. Dix-neuvièmement, d'avoir à Paris, le 17 septembre 1917, en présentant à la banque A, sous le faux nom de Lavie, femme Buisson, une femme qui se nommait en réalité Rémy, femme Landru, fait établir au nom de la dite femme Buisson un bordereau constatant la vente de 300 francs de rente française pour le prix à forfait de 2035 francs, et d'avoir fait faussement apposer au bas de ce bordereau par la fermée Landru la fausse signature « Veuve Buisson ». Vingtièmement, d'avoir à Paris, le 17 septembre 1917, fait usage de l'écrit ci-dessus spécifié, ainsi falsifié connaissant sa fausseté. Vingt-et-unièmement, d'avoir à Gambet, le 20 novembre 1917, commis un homicide volontaire sur la personne de Barthélemy-Louise Léopoldine, femme Jaume. Vingt-deuxièmement, d'avoir à Gambet, le 26 novembre 1917, soustrait frauduleusement une certaine somme d'argent et des objets mobiliers au préjudice des héritiers de Barthélemy, femme Jaume. Vingt-troisièmement, d'avoir à Gambet, le 16 avril 1918, commis un homicide volontaire sur la personne de Pascal Anne-Marie. 24e, d'avoir à Gambet le 5 avril 1918 soustrait frauduleusement une certaine somme d'argent et des objets mobiliers au préjudice des héritiers de Pascal Anne-Marie. 25e, d'avoir à Gambet le 13 ou le 14 janvier 1919 commis un homicide volontaire sur la personne de Madame Marchandier, Marie-Thérèse, crime prévu par les articles 205, 290, 287, 201, 904, 379, 401, 147, 148 du Code pénal, fait au parquet le 7 janvier 1921 pour le procureur général, l'avocat général délégué Robert Godefroy. Landru devait comparaître seul sur le banc des accusés. En effet, il fut démontré au cours de l'instruction que sa malheureuse femme avait agi en parfaite bonne foi et inconscience absolue, ainsi que ses deux fils. Nous ne pouvons que nous incliner devant le désespoir de ces pauvres gens qui ne commirent qu'une faute, c'est d'avoir trop confiance en Landru. Et maintenant, les derniers tableaux sur la terrible tragédie que nous venons de revivre vont se dérouler devant la cour d'assises de Versailles. Chapitre 12. Un procès sensationnel. Le procès de Landru devait durer 26 audiences. Que nos lecteurs se rassurent, nous ne leur donnerons pas le compte-rendu détaillé. Nous nous contenterons seulement de dépeindre la physionomie des audiences, d'en évoquer l'atmosphère, de décrire l'attitude de l'accusé, de citer quelques-unes de ses réponses les plus typiques et de faire le raccourci de la suite ardente qui mit aux prises l'accusation et la défense. Tout d'abord, si le sire de Gambet était défendu par le grand avocat qu'est maître Moreau Giafferi, il allait se trouver en face d'un président, M. Gilbert, magistrat redoutable, plein d'autorité, d'à-propos et de finesse, et d'un avocat général, M. Robert Godefroy, dont l'acte d'accusation, véritable chef-d'œuvre de clarté et de dialectique, avait déjà porté un coup si redoutable au véritable mur de silence et de mystère dont l'accusé cherchait à faire une barrière entre la justice et lui. Landru se rendit-il compte? Certes. Et cependant, lorsque, dans une salle pleine à craquer d'un public dit d'élite, et au milieu d'une curiosité d'autant plus impressionnante qu'elle était rigoureusement silencieuse, Landru apparut dans le box des accusés. Il ne semblait nullement ému, figure d'honnête courtier qui semblerait banale, écrivait Henri Hiéro, qui en a fait du procès Landru un compte-rendu inoubliable. Landru, dit-il, se penche avec politesse, darde avec le tribunal un nez mince et pointu, qui semble flatter le vent. Enfin, il s'assied, l'on ne voit plus par-dessus la bande du box qu'un visage froid, osseux, barbu et pommadé. Tandis que le greffier donne lecture de l'acte d'accusation, qui ne comporte pas moins de 76 feuillets tapés à la machine, Landru l'écoute avec attention, tantôt renversé contre le dossier de fer de son banc, tantôt la tête tournée vers les jurés, impénétrable, ou vers le public qui ne se rassaisit pas de le contempler. Puis c'est l'appel des témoins, parmi lesquels on se monte Mademoiselle Fernande Segret, qui s'efforce de se composer une attitude réservée et douloureuse. Toute cette première audience est prise par la lecture de l'acte d'accusation, l'appel des témoins et un petit discours de Landru, qui au seuil du débat tient à faire une déclaration solennelle d'innocence. Aux audiences suivantes, il s'animera. On sent que cet homme, doué d'une faconde intarissable, en a assez de garder le silence. Il parle non pas pour avouer, mais au contraire pour discuter, pour protester, et tout cela avec une verve de camelot, des mots frisant la trivialité, ce qui n'est pas sans lui reprocher le président Gilbert, qui, c'est le cas de le dire, conduit magistralement les débats. Mais Landru ne se démonte pas et répond « Vous savez, messieurs, que je n'ai reçu qu'une éducation primaire. Je ne puis m'exprimer en termes aussi élevés que les vôtres. Aussi, je vous demande de juger mes réponses non sur des termes que j'emploie, mais sur la signification que je m'efforce de leur faire contenir. » Le président lui parle-t-il de son répertoire qui contient les noms et les adresses des disparus? Il réplique « La police aurait-elle préféré trouver sur la première page une déclaration ainsi conçue ?» Le sous-signé Landru reconnaît avoir assassiné les 10 femmes dans les 10 mois. N'en suivent. Et Goguenard, agressif même, il ajouta, il y a peut-être deux disparus dont on ne parle pas. Quant à celle que vous appelez mes fiancées, elles savaient ce qu'elles faisaient, d'autant plus qu'elles étaient toutes majeures. Avec une finesse, une bonhomie plus terrible pour un accusé que la brutalité et la violence, M. Gilbert poursuit son interrogatoire, enfermant peu à peu l'inculpé dans un véritable réseau d'où il semble qu'il ait bien de la peine à s'évader. Mais la thèse du misérable est invariable. Il a connu ses femmes, il a fait des affaires avec elles, il leur a acheté des meubles, des bijoux, des vêtements. Elles étaient ses clientes, un point c'est tout. Quant à savoir ce qu'elles sont devenues, cela lui est impossible, c'est à la police de chercher. Et il ajoute, après toutes les horreurs que l'on a débitées sur mon compte, je crains bien maintenant qu'aucune d'elles n'ose paraître pour me disculper. Puis c'est le défilé des témoins. Et toujours le même pitoyable et banal refrain. Ma sœur, ma belle-sœur, ma voisine m'avait dit qu'elle se mariait avec un monsieur très bien. Il n'était pas venu, mais distingué, mais très instruit. Elle était heureuse de l'épouser. Quand ils ont tout dit, épuisés leur mémoire de gens simples, leur mémoire usée par les soucis quotidiens, le président Gilbert leur pose à tous la même question. « Croyez-vous que si Madame X était vivante, elle vous aurait écrit ?» Et tous de répondre « Certainement !» Landru, que toutes ces dépositions semblent laisser indifférent, se fait somnolent pour se réveiller de temps en temps, pour discuter avec une habileté remarquable certaines affirmations dont il s'efforce d'atténuer la gravité. En un mot, il se réserve, mélangeant ses forces pour d'autres audiences, pour le moment décisif où il devra disputer sa tête à l'avocat général, dont quelques interventions très remarquées lui ont déjà prouvé qu'il n'avait à attendre de lui aucune pitié. Mais un incident profondément pénible va se produire, rendant plus grave l'atmosphère d'une salle remplie d'un trop grand nombre d'invités qui ont accueilli avec des rires déplacés les boutades, les prétendus mots du sire de Gambet. Tour à tour, deux dames en deuil viennent d'apparaître à la barre. Ce sont la mère et la sœur de Madame Colomb. « Madame, demande le président à la mère, « reconnaissez-vous l'accusé ici présent ?» La pauvre femme dirige un regard brûlé de larmes vers le misérable qui ne sourcille pas. Et elle répond d'une voix brisée par les sanglots. Oui, je le reconnais. Il ne bronche toujours pas. Mais cette fois, il a légèrement baissé la tête et ses yeux perçants n'osent pas affronter les yeux douloureux de la pauvre vieille maman dont il a toujours brisé le cœur et endeuillé la vie. Enfin, voilà l'heure du carnet arrivé. Ce fameux carnet que Landru appelle lui-même le bréviaire de l'accusation et qui est en réalité le principal témoin de la justice. C'est une chose inimaginable, nous dit Henri Béraud. Non point, comme chacun le croit, un banal calepin, graisseux, ainsi qu'un vieux livret militaire et mâchuré de notes écrites au crayon un peu partout, en toute occasion et dans tous les sens, loin de là. C'est une véritable comptabilité de poche, un minuscule registre folleté, daté, où cet homme bizarre portait tout en compte et notait la sortie de 2 sous consacrés à l'achat d'une boîte d'allumettes. Tout cela est soigneusement réglé, vergé, quadrillé à l'encre rouge par Landru lui-même. Et cela constitue, au bout du compte, les véritables mémoires de cet homme chiffre, de ce compteur vivant pour qui toute chose, l'argent, la famille et l'amour n'étaient qu'affaires de matricule. Métal, c'est l'or. F4, c'est Marcel Landru, son fils. Et 6 tout court, c'est André Ballet, la jolie fille fantasque et bluffeuse. Et Landru continue à nier éperdument. Qu'il s'agisse de Madame Cuchet, de Madame Labordeline, de Madame Guillain, de Madame Éon, de Madame Colomb, de Mademoiselle Babelais, de Madame Buisson, de Madame Pascal, de Madame Jaune et de Madame Marchandier, chaque fois que le président lui pose son invariable question, voulez-vous nous dire, Landru, ce que devient cette femme après vous avoir quitté? Landru répond. « Plus rien à dire. »« Bon, il n'était pas temps, » disent les uns. « Il se coule, » disent les autres. Car maintenant, le public est composé de 2 clans très distincts et très opposés. Les landruitistes et les anti-landruitistes. Les uns, par snobisme, veulent à tout prix qu'ils soient innocents. Les autres, et ce sont les plus nombreux, et les débats ne font que les confirmer dans leur opinion, estiment au contraire qu'il est coupable. Pendant les suspensions d'audience, on discute ferme, à savoir si une fiancée ou une cliente ne va pas bientôt reparaître, faisant s'écrouler d'un seul coup l'édifice de l'accusation. Reviendra, reviendra pas. Scandent les parties adverses, entraînées, passionnés par cette lutte que trop d'entre eux considèrent comme du sport et dont la tête d'un homme est l'enjeu. Avec le temps, les esprits vont encore s'échauffer. Déjà, plusieurs escarmouches sont dressées l'un contre l'autre, l'avocat général Robert Godefroy et maître de Borgia Ferri. Landru s'en est mêlé et, dominant le tumulte, il a lancé à l'avocat général ce défi qui a produit une réelle sensation dans l'auditoire. « Ma tête, vous parlez toujours de ma tête. Je regrette de ne pas en avoir plusieurs à vous offrir. » Et voici un des instants les plus sensationnels du procès. L'huissier vient appeler Mademoiselle Fernande Segret, la rescapée. Une rumeur éclate dans la salle. Silence, hurle l'huissier. Nous ne sommes pas au théâtre, fait observer le président Gilbert. Votre profession, mademoiselle?
Artiste lyrique.
Quelques ricanements s'élèvent. Mais bientôt on ne rit plus. Et ce fut même très émouvant. Mademoiselle Fernande Segret a parlé comme on pouvait attendre. Elle a donné l'impression d'un être délicat, fin et droit, une compagne au surplus courageuse. J'entends une compagnie qui eût défendre ses souvenirs. Non seulement elle n'a point chargé le misérable, mais au contraire, elle a déclaré qu'il s'était toujours conduit envers elle avec une correction absolue. Durant cette déposition, Landru se tint immobile, les yeux clos. On eût dit qu'il s'enveloppait dans les ombres du passé. Il ne rouvrit les yeux que pour voir partir Mademoiselle Fernande Segret. Il semblait ému. On ne l'avait jamais vu ainsi. Et voilà que brusquement, le président Gilbert, devenu plus menaçant à mesure que les débats s'allongent, porte ce coup direct à l'accusé. Comment avez-vous assassiné ces femmes ? Landru tressaille, se lève, enlève ses lunettes. Va-t-il parler ? Non, il se tait. Il se taira lorsque les gens de Gambet viendront répéter ce qu'ils ont dit à l'instruction, c'est-à-dire qu'ils ont senti aux alentours de la villa des odeurs suspectes de corps brûlés. Il se taira lorsque ces deux limiers remarquables, le commissaire d'hôtel et le brigadier inspecteur Rimoul, viendront énumérer devant le jury attentif les charges qu'ils ont réussi à accumuler sur sa tête. Il se taira encore lorsque le docteur Paul, médecin légiste, déclarera « J'ai fait l'expérience de brûler quelques têtes avec ou sans cervelle. Il faut 1h10 pour réduire en cendres la tête la plus solide du monde. » Et se penchant vers la cuisinière de Gambet, qui entre un buffet Henri III et deux matelas, figure parmi les pièces à conviction, il ajoute « La tête d'un homme est comparable à un mur de briques, avec un plâtre en dehors et du papier peint en dedans. » Il se taira toujours lorsque le professeur Raoul Anthony s'approchera du banc des jurés avec une boîte qui contient des poussières d'ossements et de menus débris qui, selon le savant, ont appartenu à 3 crânes au moins. Cependant, lorsque le président lèvera l'audience au milieu d'un grand frisson d'horreur, Landru s'en ira, la démarche moins assurée, le front bas, l'œil éteint. On dirait qu'il a senti la main de la justice s'apesantir lourdement sur son épaule et qu'il a compris que désormais, malgré son bagout, sa roublardise, ses silences, les contradictions apparentes de certains témoignages, les obscurités qui enveloppent encore plusieurs points de l'accusation, il n'échappera pas au châtiment suprême. Et maintenant, l'heure des plaidoyers a sonné. On entend d'abord Maître Lagasse, qui représente la famille d'Anne Pascal, qui s'est portée partie civile. Maître Lagasse est un excellent avocat, qui a plaidé dans nombre de causes retentissantes. Sachant fort habilement faire vibrer la corde sentimentale, il a toutes les qualités et tous les dons nécessaires pour émouvoir un jury. Mais cette fois, ce n'est point en faveur de l'accusé qu'il parle. C'est pour défendre la mémoire de la victime. C'est pour réclamer pour l'assassin un verdict impitoyable. Il obtient un grand succès. On l'applaudit. Le président menace de faire évacuer la salle si ses manifestations se renouvellent. Quant à Landru, il semble quelque peu désemparé. Néanmoins, il fait encore bonne contenance, et lorsque, drapé dans sa robe rouge, l'avocat général se lève pour requérir, il dirige vers lui un regard dont il s'efforce de bannir les inquiétudes. Oh, il semble penser. Je sais ce que tu vas dire, je t'attends et mon avocat te répondra. Il est regrettable que le réquisitoire de ce grand magistrat qu'est Robert Godefroy n'ait pas été sténographié, car ce fut un modèle du genre. Commencez presque en douceur, avec modération, mais avec une précision de faits et de termes qui donnait à chacun des arguments de l'accusation une force irrésistible, il s'élevait bientôt à la hauteur d'un admirable philippique qui allait secouer toute l'assistance, y compris les snobs et toutes les snobinettes du public, d'une émotion profonde, hommage inappréciable, non seulement au talent mais au caractère de M. Godefroy, que quelques jours auparavant, au cours d'un conflit assez sévère, Maître de Borogia-Ferry apostrophait dans ces termes « Honnête homme que vous êtes !» Et lorsque, dans une péroraison ou d'une grande envolée, le défenseur de la société réclama la tête de celui qui avait eu la cynique insolence de lui déclarer quelques jours auparavant qu'il regrettait de n'en avoir qu'une à lui offrir, ce ne furent point des bravos bruyants qui éclatèrent, mais des murmures approbatifs et unanimes, le cri de toutes les consciences qui s'étaient élevées à la hauteur de celle du justicier. Jamais peut-être encore au cours de sa si brillante carrière, Maître de Borogia-Ferry n'avait eu une tâche plus difficile à remplir. Debout, fort pâle, les mains posées à plat sur la barre, il prit un long temps. Son profil, d'un mouvement sec, parut s'accrocher à quelque chose dans l'espace, et il commença. S'efforçant de semer le doute dans le jury, usant tantôt des arguments les plus subtils de droit et de casuistique, se laissant tantôt emporter par de superbes et longs oratoires qu'une voix harmonieuse et puissante rendait encore plus impressionnant, Borogia-Ferry se montra supérieur à lui-même, et quand il eut terminé, un stagiaire s'écria « Oh, c'est un de ces plaidoyers qui marque une date !» Le jury se retirait dans la salle des délibérations. Les 6 gendarmes qui entouraient Landru l'entraînaient dans la salle d'attente réservée aux accusés, et tandis que magistrats, défenseurs, jurés, reporters s'éloignaient de la salle, la foule, cramponnée aux murs, aux bancs, aux barrières, se mit à manger en riant et en chantant. Tout Paris était là, comme hâté par le vertige de la mort. Les lustres zébraient les murailles de grandes ombres balsamites. Au bas, c'était un bouillonnement de louves, une seule rumeur qui montait parfois un rire de femme chatouillée. On mangeait, des gendarmes passaient des sandwiches, on dévalisait les bars. Les comédiennes buvaient au goulot des litres et sur tout cela une poussière d'orage. 2 heures passèrent ainsi. Enfin, un cri retentit. La cour! Tout se tut. Les jurés entrèrent, blêmes, impénétrables, sous les yeux de 1000 gens qui n'avaient plus qu'un regard. Puis l'on vit le président du jury, debout, la main sur le cœur, un feuillet tremblant devant le visage. Sur mon honneur et sur ma conscience, fit-il, ma réponse est oui sur toutes les questions. Il n'y avait pas de circonstances atténuantes. Le président donna l'ordre alors d'introduire l'accusé. C'est alors, nous dit toujours Henri Béraud, que se produisit l'abject mouvement de cette foule. Les gens, hommes et femmes, bondirent sur leur siège afin de mieux voir sur le visage de Landru passer l'ombre de la faim. On borlait. Ah si, allez, je ne vois rien. Quant à Landru, en entendant le verdict qui le condamnait à avoir la tête tranchée en place publique, il ne broncha pas. Et se tournant vers son défenseur, il lui dit « Merci, maître. Si j'avais pu être sauvé, c'eût été par vous. » Comme le tumulte grandissait, l'avocat général Godefroy, n'y tenant plus, se dressa et, tourné vers la salle, furieux, il cria de toutes ses forces « Voyons, misérable, allez-vous donc faire silence ? Ne voyez-vous pas qu'il y a là un homme qui va à la mort ?» Mais c'était Landru qui devait avoir le mot de la fin. « Dans toutes les batailles, fit-il, il y a des tués. » Après avoir une dernière fois affirmé son innocence, il sortit en boutonnant son pardessus et après s'être assuré que ses lunettes étaient bien dans sa poche. Épilogue. Je crois qu'il importe surtout à présent de faire vite. Il reprit simplement « Et puis je ne veux pas faire attendre ces messieurs. » On l'amène au greffe de la prison où les aides du bourreau se livrent à sa toilette suprême. Landru n'a plus que quelques secondes à vivre. La porte noire s'ouvre à deux battants. Le voici. Précédé du bourreau et flanqué de ses aides, son cou est nu, le col de sa chemise blanche largement échancré, mais le ciseau de Deblair lui a laissé sa fameuse barbe. Il est très pâle, mais il ne flanche pas. Tout le maigre petit corps est tendu jusqu'aux lèvres même, bandé comme une corde d'arc. Landru, que l'aumônier a suivi jusqu'au seuil, regarde franchement la guillotine. Il a franchi 2 mètres et il s'est arrêté. Ses yeux brillent une dernière fois de cet éclat qui laisse incertain les meilleurs psychologues. On le saisit, il est précipité sur la bascule. Mais le maigre Landru est si léger que malgré la rude poussée, le poids du corps ne fait pas jouer automatiquement l'appareil. Une seconde au moins s'écoule. Mais le bourreau ne perd pas de l'œil sa manette. Le couperet a chu. Le bruit, ce bruit terrible, unique, du lourd couteau déclenché. A-t-on seulement vu? Peut-on l'affirmer? En un éclair, tout est terminé. Il est 6h04. Les aides opèrent l'enlèvement du panier brillant de goudron frais par un travail de force en athlète. Les gendarmes à cheval entourent le fourgon dans lequel se hisse le dernier, le gérant des pompes funèbres, et en route pour le cimetière. Landru est mort, mais le barbe bleue de Gambet vient d'entrer dans la légende, et peut-être aussi dans l'immortalité.